Ceux qui écrivent obscurément ont bien de la chance. Ils auront des commentaires. Les autres n'auront que des lecteurs, ce qui, paraît-il, est méprisable. Ainsi s'exprimait Albert Camus après l'obtention de son prix Nobel. Il en a beaucoup de lecteurs et sous toutes les latitudes, Albert Camus aujourd'hui. Toute cette semaine, nous vous proposons une traversée Albert Camus. Pourquoi Camus ? À cause de sa sensualité, de sa limpidité, de son sens de l'équité, de la profondeur du calme que nous ressentons à le lire ou à le relire. On a beaucoup parlé de la peste pendant le confinement et de sa brûlante actualité. Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir L'étranger, premier roman d'Albert Camus, publié en 1942 et qui eut tout de suite un immense retentissement. Ces émissions seront divisées en deux parties. Une première où nous entendrons la voix d'Albert Camus grâce à un enregistrement de l'INA de 1954 et en seconde partie, des philosophes, des historiens, des écrivains viendront nous donner les raisons d'aimer Camus aujourd'hui. Ce soir, Albert Camus, L'étranger numéro 1. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et en honneur d'Albert Camus, nous vous proposerons chaque soir d'écouter Don Giovanni de Mozart, dirigé par Georges Solti. Et puis tout de suite après, la voix d'Albert Camus. Place à Mozart. Ce soir, première émission d'Albert Camus. Nous allons écouter en seconde partie l'historien Benjamin Stora qui va nous expliquer comment et pour quelles raisons Camus est encore aujourd'hui algérien. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous avec Albert lui-même et sa voix. C'est lui qui va commencer cette lecture de L'étranger, archivée en 1954.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, Je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela sans doute. Ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau, c'est un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans, vous étiez son seul soutien ». J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu, vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère, vous ne pouviez subvenir à ses besoins, il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. J'ai dit, oui, monsieur le directeur. Il a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge, elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère ». Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte. Dans les escaliers, il m'a expliqué « Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours et ça rend le service difficile ». Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient, on aurait dit d'un jacassement assourdi de perruches. À la porte d'un petit bâtiment, le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère, apparaît-il, exprimait souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. Je l'ai remerciée. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. » Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. 2 d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir, il a bégayé un peu. « On l'a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. » Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêté. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ?» J'ai répondu « Non ». Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Au bout d'un moment, il m'a regardé, il m'a demandé pourquoi, mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ». Alors, tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder « Je comprends ». Il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qu'elle a ». Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé « Je vais vous laisser seul ». Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout derrière moi. Cette présence dans mon dos me gênait. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Deux frelons bourdonnaient contre la verrière. Et je sentais le sommeil me gagner. J'ai dit au concierge sans me retourner vers lui, « Il y a longtemps que vous êtes là. » Immédiatement, il a répondu 5 ans, comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marengo. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici. » Puis je me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud, surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec le mort 3-4 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps, on ne s'est pas fait à l'idée que déjà il faut courir derrière le corbillard. Sa femme lui avait dit alors « Tais-toi, ce ne sont pas des choses à raconter à monsieur ». Le vieux avait rougi et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « mais non ». Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Dans la petite morgue, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il se sentait valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je lui ai fait remarquer qu'en somme, il était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres et plus rarement les vieux, en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. La garde est entrée à ce moment. Le soir était tombé brusquement. Très vite, la nuit s'était épaissie au-dessus de la verrière. Le concierge a tourné le commutateur et j'ai été aveuglé par l'éclaboussement soudain de la lumière. Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner, mais je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu, j'ai eu alors envie de fumer, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi, cela n'avait aucune importance. J'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit, « Vous savez, les amis de madame votre mère vont venir la veiller aussi, c'est la coutume. Il faut que j'aille chercher des chaises et du café noir. » Je lui ai demandé si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite, c'était tout ou rien. Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti et revenu à disposer des chaises. Sur l'une d'elles, il a empilé des tasses autour d'une cafetière. Puis il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné, je ne voyais pas ce qu'elle faisait. Mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillé. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante de blancheur. Devant moi, il n'y avait pas une ombre, et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne, et pas un détail de leur visage ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous assis en face de moi à dodeliner de la tête autour du concierge. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Peu après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang, cachée par une de ses compagnes, et je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris, régulièrement, il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur canne ou n'importe quoi, mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours. J'étais très étonné parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre. Pourtant, je n'osais pas le lui dire. La concierge s'est penchée vers elle, lui a parlé, mais elle a secoué la tête, a bredouillé quelque chose et a continué de pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi. Après un assez long moment, il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant, elle n'a plus personne. Nous sommes restés un long moment ainsi. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup, elle s'est tue enfin. Je n'avais plus sommeil, mais j'étais fatigué et les reins me faisaient mal. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'étaient pénibles. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier, je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelques-uns d'entre les vieillards suçaient l'intérieur de leurs joues et laissaient échapper ces clapements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas tant ils étaient absorbés dans leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte couchée au milieu d'eux ne signifiait rien à leurs yeux, mais je crois maintenant que c'était une impression fausse. Nous avons tous pris du café servi par le concierge. Ensuite, je ne sais plus. La nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de ses mains agrippé à la canne, me regardait fixement comme s'il n'attendait que mon réveil. Puis j'ai encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal aux reins. Le jour glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé et il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres et le concierge a dit qu'ils devraient partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendre. En sortant, et à mon grand étonnement, ils m'ont tous serré la main comme si cette nuit où nous n'avions pas échangé un mot avait accru notre intimité. J'étais fatigué. Le concierge m'a conduit chez lui et j'ai pu faire un peu de toilette. J'ai encore pris du café au lait qui était très bon. Quand je suis sorti, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur, et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne, et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Mais j'ai attendu dans la cour sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À cette heure, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses, mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du remue-ménage derrière les fenêtres, puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel, il commençait à chauffer mes pieds. Le concierge a traversé la cour et m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main et il m'a interpellé. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois? J'ai dit non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix. Fijac, dites aux hommes qu'ils peuvent aller. Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau. Il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Il les laissait seulement veiller. C'est une question d'humanité, a-t-il remarqué. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Ici, le directeur a souri. Il m'a dit, vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à Pérez, c'est votre fiancé. Lui riait, ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Madame Meursault l'a beaucoup affecté. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé. Voilà déjà le curé de Marengo, il est en avance. Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins 3 quarts d'heure de marche pour aller à l'église qui est au village même. Nous sommes descendus. Devant le bâtiment, il y avait le curé et 2 enfants de cœur. L'un de ceux-ci tenait un encensoir et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Quand nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé. Il m'a appelé mon fils et m'a dit quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi. J'ai vu d'un coup que les vis de la bière étaient enfoncées et qu'il y avait 4 hommes noirs dans la pièce. J'ai entendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la route et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés vers la bière avec un drap. Le prêtre, ses suivants, le directeur et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. « Monsieur Meursault », a dit le directeur. « Je n'ai pas entendu le nom de cette dame et j'ai compris seulement qu'elle était infirmière déléguée. » Elle a incliné sans un sourire son visage osseux et long, puis nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture. Vernie, oblongue et brillante, elle faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait l'ordonnateur, petit homme aux habits ridicules, et un vieillard à l'allure empruntée. J'ai compris que c'était Monsieur Pérez. Il avait un feutre mou à la calotte ronde et aux ailes larges. Il l'a ôté quand la bière a passé la porte. Un costume dont le pantalon tire-bouchonné sur les souliers et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un nez truffé de points noirs. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer de curieuses oreilles ballantes et mal ourlées dont la couleur rouge sang dans ce visage blafard me frappa. L'ordonnateur nous donna nos places. Le curé marchait en avant, puis la voiture, autour d'elle, les 4 hommes. Derrière, le directeur, moi-même, et fermant la marche, l'infirmière déléguée et Monsieur Pérez. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps avant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres. Le petit vieux qui s'était recouvert a de nouveau ôté son chapeau. Je m'étais un peu tourné de son côté et je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui. Il m'a dit que souvent ma mère et Monsieur Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous nous sommes mis en marche. C'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez claudiquait légèrement. La voiture peu à peu prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entourait la voiture s'était laissé dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel. Je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du chant des insectes et de crépitement d'herbe. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps, il s'essuyait le crâne avec un mouchoir qu'il tenait dans sa main gauche, la main droite soulevant le bord de sa casquette. Je lui ai dit comment ? Il a répété en montrant le ciel. « Ça tape !» J'ai dit oui. Un peu après, il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ?» J'ai encore dit oui. Elle était vieille. J'ai répondu comme ça, parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite, il s'est tu. Je me suis retourné, j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il se hâtait en balançant son feutre à bout de bras. J'ai regardé aussi le directeur. Il marchait avec beaucoup de dignité, sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, mais il ne les essuyait pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné, nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfoncés et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture, le chapeau du cocher en cuir bouilli semblait avoir été pétri dans cette boue noire. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs, noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. Tout cela, le soleil, l'odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route et pris à travers champs. J'ai constaté aussi que devant moi, la route tournait. J'ai compris que Pérez, qui connaissait le pays, coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant, il nous avait rejoints, puis nous l'avons perdu. Il a repris encore à travers champs et comme cela, plusieurs fois, moi je sentais le sang qui me battait aux tempes. Tout s'est passé ensuite avec tant de précipitation, de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien. Une chose seulement, à l'entrée du village, l'infirmière déléguée m'a parlé. Elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage, une voix mélodieuse et tremblante. Elle m'a dit « Si on va doucement, on risque une insolation, mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église, on attrape un chaud et froid. » Elle avait raison, il n'y avait pas d'issue. J'ai encore gardé quelques images de cette journée. Par exemple, le visage de Pérez quand pour la dernière fois il nous a rejoints près du village. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues, mais à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, on eût dit un pantin disloqué, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s'y mêlait encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures.
عرش الزين ديث مغطى صنصار قديمين شز عندي ثمار
يا لا لا يا لا لا لا
اسن صغار في قديمي
Merci Benjamin Stora d'avoir accepté d'inaugurer cette série d'émissions autour de Albert Camus et de l'étranger. Nous venons d'entendre dans la voix même d'Albert Camus lisant l'étranger ce texte qui est apparu donc en 1942 en France et qui fut un véritable coup de tonnerre immédiatement reconnu par la critique. Je rappelle que Albert Camus était un jeune homme pratiquement inconnu de tout le monde à cette période-là, et que ce texte a été porté par Pascal Pia à la NRF chez Gallimard et soutenu immédiatement par les plus grands critiques et les plus grands intellectuels de l'époque, dont André Malraux. Vous venez de publier, Benjamin Stora, un gros ouvrage magnifique dans la collection Bouquins qui s'intitule « Une mémoire algérienne ». Et au détour des pages de cette mémoire algérienne, eh bien, j'ai trouvé à plusieurs reprises des éloges d'Albert Camus comme étant l'un des écrivains, voire l'écrivain, qui a le mieux parlé de votre propre pays, l'Algérie.
Pour Camus, l'Algérie, c'est non seulement une espérance, un grand bonheur, mais aussi, quelque part, aussi une souffrance. Il y a les deux. Dans ce rapport à l'Algérie qui est très difficile et qui m'a toujours impressionné, c'est qu'il porte, disons, l'Algérie sur le cœur, mais il la porte aussi comme une blessure. Donc c'est par l'Algérie qu'il va connaître à la fois les sensations les plus extrêmes, les plaisirs, bien sûr, qui va découvrir toute une série de choses de sa vie, qu'on connaîtra plus tard dans sa vie d'homme. Mais il va connaître aussi les désillusions, il va connaître aussi le sentiment d'être un vaincu de l'histoire, plus tard, bien sûr, ça c'est quelque chose de très important, donc l'Algérie, c'est tout cela pour lui en même temps, c'est-à-dire à la fois une force, une espérance et aussi une blessure.
Alors on connaît de Albert Camus cette phrase extrêmement connue et reconnue, mais qu'il faut replacer dans son contexte et qu'il faut expliquer avec sa profondeur historique et politique. « Entre ma mère et l'indépendance de l'Algérie, je choisis ma mère ». Pouvez-vous expliquer cette phrase, Benjamin Stora ?
Vous savez que cette phrase, elle a été ensuite contestée, critiquée, remise en perspective par Camus lui-même d'ailleurs, qui s'en est défendu, hein, parce que c'était une réponse en fait à un étudiant algérien lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957, et c'était pas un texte écrit, bien sûr, c'était une sorte de réponse prononcée à la hâte dans une conférence de presse. C'est un tout petit morceau de phrase, mais derrière, bien sûr, cette polémique, derrière la discussion incessante sur ce rapport entre sa mère, la justice et l'Algérie, il y a, disons, chez Camus, encore une fois, une ambivalence, c'est-à-dire l'attachement très fort à l'Algérie et aux Européens d'Algérie, et son attachement très fort aussi à la lutte contre l'injustice, contre l'inégalité, contre un système qu'il jugeait colonial, bien sûr, et injuste. Donc il y a cette sorte de double attitude, d'ambiguïté, bien sûr, de Camus, qui fait aussi sa force et son originalité. Donc dans ce rapport entre la mer, la justice, l'Algérie, il y a toute la complexité de Camus qui est là, c'est-à-dire d'être à la fois avec ceux qui souffrent, partager leur sort, mais en même temps, connaître ou reconnaître que quelquefois, eh bien, il faut rester avec les siens. Rester avec les siens, c'était les Européens d'Algérie, et donc pas forcément être pour l'indépendance de l'Algérie, ce que va lui reprocher un autre grand écrivain algérien à la même époque, on le sait, Kateb Yassine, qui va, engager une polémique à partir de cette phrase avec Albert Camus dès octobre 1957, ce qui avait d'ailleurs profondément touché et blessé Albert Camus, parce qu'il ne voulait absolument pas se heurter, aux Algériens en prononçant cette phrase, mais tout simplement expliquer sa propre position.
Pouvez-vous nous expliquer, Benjamin Stora, maintenant que l'historiographie est assez complète, même très complète, et que vous y avez participé grandement sur le douloureux problème de la guerre d'Algérie, pouvez-vous nous expliquer la complexité de la situation au moment du début de la guerre d'Algérie et la complexité des positions d'Albert Camus à l'intérieur de ces différents mouvements pour l'indépendance de l'Algérie?
Vous savez, Camus était d'abord, on l'a oublié peut-être un peu trop vite aujourd'hui, il était d'abord un homme de gauche, un anticolonialiste lorsqu'il a été journaliste à Alger Républicain. C'est-à-dire que sa position, son regard sur la société algérienne, c'est d'abord un regard social. Il est, on le sait, ça a été dit beaucoup, il est le fils d'une femme de ménage, donc issu d'un milieu extrêmement pauvre. Donc la question sociale, la question de la pauvreté était quelque chose de tout à fait décisif chez lui. Donc lorsqu'il est un jeune homme engagé dans les années 30, du côté des communistes en particulier, avec qui il va rompre bien sûr plus tard, c'est d'abord sur la question de l'inégalité, la question sociale et de la pauvreté. Pour lui, il ne voit pas l'importance de ce qu'on va appeler ensuite la question nationale, c'est-à-dire le fait que des Algériens puissent revendiquer pour eux-mêmes l'appartenance à une nation qui serait différente de celle de la France. Donc il est à la fois quelqu'un qui combat contre la misère faite aux Algériens, par exemple dans une série de reportages comme « Misère de la Kabylie » qu'il va publier en 1939, où il dénonce violemment l'inégalité et l'injustice du système colonial, comme il dénoncera d'ailleurs très violemment, il sera même un des seuls écrivains français en 1945, on le sait pas, mais il était pratiquement seul à dénoncer la répression de Sétif en 1945 contre les Algériens, mais en même temps il ne voit pas ou il ne veut pas voir l'indépendance de l'Algérie. Donc il restera attaché tout au long de sa vie jusqu'à la fin au fait d'être resté attaché à l'existence pauvre des Algériens, ce en quoi il était par exemple proche de personnages comme Germaine Tillon, par exemple, mais en même temps, il ne veut pas, reconnaître l'existence d'une nation séparée de la présence française. Voilà toute l'ambiguïté. Et il est vrai,
bien sûr. Il n'était pas pour la lutte armée non plus, ni pour la violence.
Et il est vrai aussi, bien sûr, que lorsque les nationalistes algériens, c'est-à-dire ceux qui vont se lever pour revendiquer cette indépendance, vont utiliser la violence et le recours à la lutte armée, alors là, Camus va se prononcer contre eux. Parce que dans le fond, avant 1954, qui est le début de la guerre d'Algérie, Camus n'était pas, un partisan, de la violence au sens où la fin justifierait les moyens. Ça n'a pas pu être sa position politique et humaine. Donc à partir de là, bien sûr, il va se heurter à cette conception-là. Il va se heurter à la conception de la politique par la violence, par la radicalité extrême, Ce en quoi, bien sûr, à cette époque, dans les années 50, il va se heurter à une grande partie de l'intelligentsia française, notamment Jean-Paul Sartre, mais pas seulement Jean-Paul Sartre, beaucoup aussi d'intellectuels qui étaient engagés dans des dynamiques très clivantes, tiers-mondistes. Et donc là, Camus va se heurter à eux, il va se sentir très seul. Ça, c'est un autre aspect, disons, important. Mais il y a un troisième aspect sur l'Algérie qui est très important chez Camus, c'est le fait que si il a toujours reconnu la nécessité, bien sûr, d'une sorte d'autonomie pour l'Algérie, de donner beaucoup plus de pouvoir aux Algériens musulmans, comme on disait à l'époque, puisqu'il était ami avec des personnages comme Ferhat Abbas, voire même plus tard avec Messali Hadj, néanmoins, il reste un partisan de la pluralité politique. Et c'est pourquoi son discours est si actuel et si important pour l'Algérie d'aujourd'hui, parce qu'il n'a pas et il n'a jamais été pour le parti unique qui rassemblerait l'ensemble des positions politiques et idéologiques. Il pense que ça contient en germe des sociétés totalitaires. Vous savez, vous connaissez le combat de Camus contre le totalitarisme dès les années 50. Alors pourquoi accepterait-il l'existence d'un parti unique, en l'occurrence le FLN, qui représenterait la totalité, disons, du peuple algérien? Ça, ce n'est pas sa position. Ce n'est pas sa conception de la politique et de l'histoire. Et il se rapprochera d'ailleurs à ce moment-là, dans les années 55, 56, 57, d'autres nationalistes algériens, comme les messalistes, qu'ils connaissaient très bien, et qui, eux, étaient partisans du pluralisme politique et contre l'existence, disons, d'un parti unique. Et donc, pour toutes ces raisons, Camus est à la fois très attaché à l'égalité politique, très attaché à la lutte contre la pauvreté, très attaché, disons, au fait de faire en sorte que les hommes puissent accéder à une forme de respect, de dignité, et de ne pas être piétinés par le système colonial, mais en même temps, il reste très attaché à sa conception politique du rejet de la violence, du totalitarisme et des systèmes à parti unique. Voilà cette position très, on pourrait presque dire très actuelle, très moderne, dans le monde d'aujourd'hui, mais qui, à l'époque, dans les années 50, paraissait totalement décalé, d'être à la fois, disons, pour ceux qui souffraient, et en même temps, ne jamais lâcher sur le principe de la démocratie et du pluralisme.
Qui est Meursault pour vous? Parce que vous dites Camus était un pacifiste, Camus était un militant des droits de l'homme, Camus était quelqu'un qui a toujours pratiqué l'éloge de la pluralité en politique, mais quand on relit L'Étranger, qu'on l'a entendu tout à l'heure le lire, eh bien, on entendra demain les fameuses pages consacrées à l'assassinat de cette figure qui s'appelle l'Arabe. Alors, qui est Meursault pour vous? Et qu'est-ce qui se passe là dans ce meurtre commis par Meursault, selon vous, Benjamin Stora?
Ah, il y a plusieurs éléments qui sont aussi, qui témoignent de toute la complexité du personnage, parce qu'il y a à la fois ce personnage vu, entre guillemets, simplement comme un Arabe, qui est une sorte de personnage dans un décor. Il n'est pas partie prenante d'une histoire réelle de l'Algérie. Il n'est pas celui qui participe de cette histoire, mais qui est une sorte de personne extérieure à l'histoire. Donc c'est ça d'abord. Mais ça, c'est terrible parce qu'il est dans le fond, disons, comme ceux que les Européens regardaient, c'est-à-dire les indigènes, entre guillemets, à l'époque. Donc il participe aussi de cette représentation et de ce stéréotype qu'on pouvait appliquer à la population algérienne dans son immense majorité au moment où Camus écrivait L'Étranger. Ça, c'est c'est la première chose. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire le meurtre qui exprime la violence d'une société coloniale. C'est-à-dire qu'on peut tuer quelqu'un à qui, dans le fond, on dénie la qualité d'être humain, qui n'appartient pas à l'humanité. On peut le voir aussi de cette manière-là, c'est-à-dire dans le fond de quelqu'un qui n'existe pas, en fait, fondamentalement, qui n'existe pas dans le regard de l'autre. Donc c'est ce double aspect chez Camus, et il y aura plus tard, bien sûr, toute une série, comme d'habitude, lorsqu'il est question de Camus, des polémiques sur le fait d'avoir dépeint cet homme, cet Arabe, comme un étranger dans son propre pays. Donc ce sera une polémique dirigée contre lui, mais aussi, cette fois-ci en sa faveur, d'avoir dépeint, disons, le meurtre d'un homme parce qu'il n'appartenait pas à l'humanité, et ce qui démontrerait aussi toute la cruauté d'un système.
Et vous, comment vous percevez ce personnage de Meursault? l'indifférence vis-à-vis de la mort de sa mère est-elle à mettre en rapport avec l'indifférence avec laquelle il commet cet assassinat ?
Oui, je crois. Je crois qu'il y a, disons, il y a cette question, il y a cette question de la lassitude et de l'indifférence et d'un personnage qui est détaché de l'histoire, en fait, fondamentalement, et qui le regarde de manière totalement extérieure. Alors il y a cette solitude du personnage qu'on voit en creux se dessiner, tel que Camus, dans le fond, le dessine. C'est le fait d'être un étranger à l'intérieur de son propre pays, donc être dans une sorte d'exil perpétuel, sans forcément l'assumer.
En Algérie aujourd'hui, Camus est encore beaucoup lu, il est beaucoup enseigné, on écrit beaucoup sur Albert Camus. Est-ce un écrivain qui est réapproprié par les Algériens, selon vous, Benjamin Stora, ou est-il définitivement universalisé, parce que universalisable, étant donné les thématiques qu'il embrasse, notamment dans l'étranger ?
Il est d'abord universalisable, parce que son combat contre la peine de mort, son combat pour la liberté de la presse, son combat contre les systèmes totalitaires et les partis uniques sont des combats universels aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut s'y reconnaître, on peut voir, disons, à travers tous ses écrits, toutes les batailles qui continuent de se mener encore aujourd'hui, et notamment en Algérie. Donc ça me paraît important. Mais c'est aussi un auteur, disons, qu'on ne peut lire qu'à travers le prisme de l'extraordinaire complexité algérienne, c'est-à-dire du fait que les Algériens ont à l'égard de Camus ce rapport très compliqué eux aussi, à la fois de revendication d'Algériens comme de Camus comme un Algérien, et à la fois du rejet, disons, d'un Camus qui n'aurait pas réussi à comprendre ce qu'était le dégagement d'une nation sous le système colonial. C'est-à-dire qu'il y a ce double aspect, ce double regard, sans cesse, qui est porté par les élites algériennes, les écrivains algériens, qui à la fois le revendiquent en tant que tel, comme faisant partie des leurs, mais qui en même temps, n'est pas parvenu à être un des leurs. Et c'est toute la difficulté, toute l'ambiguïté chez énormément d'intellectuels, d'écrivains algériens. Yasmina Kadra l'a écrit, d'autres l'ont écrit, plus récemment Kamel Daoud. On a eu et on a toujours, disons, dans le monde intellectuel algérien d'aujourd'hui, cette distance et cette extraordinaire proximité avec un homme très amoureux de ce pays qui avait été violenté, mais qui aussi a subi trop de violence, fondamentalement. Camus, il exprime, disons, cette sensation, cette ambivalence.
Le placez-vous, Benjamin Stora, dans la lignée des grands moralistes ?
Pourquoi pas ? C'est-à-dire de quelqu'un qui a su voir les choses, a su les anticiper, a su les expliquer, sans forcément lui-même, être en mesure d'appliquer ce qu'il écrivait lui-même. Il l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, c'est qu'il était aussi un homme parmi les hommes, qui pouvait se tromper, qui pouvait ne pas mettre en application ce qu'il avait lui-même élaboré. Il l'a écrit souvent d'ailleurs, cette recherche, cette volonté de simplicité chez lui, dans ce rapport, son rapport aux sociétés, à l'Algérie, aux femmes aussi, bien sûr.
Vous parlez des femmes, mais je ne peux m'empêcher de penser à la correspondance de Maria Cazares qui a été publiée il y a très peu d'années et qui nous a permis de comprendre le Camus amoureux, le Camus solaire, le Camus sensuel. Et puis, autre événement post-mortem sur Albert Camus qui ne cesse de nous étonner parce que des décennies sont passées depuis sa mort, mais on apprend toujours quelque chose de nouveau sur Camus. Ça a été la publication de ce texte, Le Premier Homme. Donc, on a vraiment l'impression que sans arrêt surgit du nouveau avec Albert Camus.
Ah oui, oui, ben oui. Alors, Le Premier Homme qui, à mon sens, qui finit, on le sait, la vie de Camus, mais qui est en fait toute l'histoire de Camus rassemblée en un seul volume, comme on le sait aussi, écrit d'un jet, c'est ça qui est extraordinaire, le manuscrit de Camus qui a été découvert dans la voiture au moment où il a eu cet terrible accident qui lui a causé la mort. Le Premier Homme, c'est effectivement un texte bouleversant, c'est un texte magnifique, parce que c'est aussi un texte sur son enfance, la pauvreté, le fait de ne jamais se renier, d'avancer, le courage aussi qui a été le sien, d'affronter cette situation difficile. Bref, tout ça a une portée universelle, une portée singulière et universelle.
À un moment, on parlait de Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron dans le milieu intellectuel, il y a une petite quarantaine d'années, et on disait que les intellectuels, pour la plupart, préféraient avoir tort avec Jean-Paul Sartre plutôt que d'avoir raison avec Raymond Aron et Albert Camus là-dedans? Est-ce que c'est pas celui qui tient la boussole et l'équilibre de la justice et de la vérité, de l'approche de la vérité?
Quelque part, effectivement, il est peut-être à mi-chemin entre Sartre et Aron, parce que Sartre est un immense écrivain. C'est aussi un homme qui a été très courageux. Moi, je relisais récemment les mémoires de Claude Lanzmann lorsqu'il était compagnon de Sartre et Simone de Beauvoir, et l'extraordinaire courage de Sartre au moment de la guerre d'Algérie, lorsqu'il avait pris position, comme on le sait, avec Simone de Beauvoir, et toutes les campagnes de haine contre Sartre et Simone de Beauvoir. Donc, moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille déconsidérer Jean-Paul Sartre, d'abord parce que c'est un grand écrivain, et aussi par tous les engagements qui ont pu être les siens. Donc, effectivement, Camus peut se situer à l'intersection entre cette façon de voir de Sartre, ce rapport au monde très radical à l'époque, et puis de Raymond Aron, dans sa rationalité très politique, encore que, vous savez, Raymond Aron, en 1957, dans la tragédie algérienne, il prophétise l'indépendance de l'Algérie, avant même l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Donc tout ça n'est jamais si simple.
Merci infiniment, Benjamin Stora.
Merci beaucoup.
Pour votre éloge d'Albert Camus, et puis je rappelle que vous sortez en ce moment même un très beau livre, un très gros livre, très personnel et très sensuel aussi, qui s'intitule « Une mémoire algérienne » et qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Merci à Benjamin Stora. J'espère qu'on se retrouvera demain pour le numéro 2 de cette série consacrée à l'étranger d'Albert Camus. Et ça sera l'écrivain et le lecteur Alberto Manguel qui nous parlera de Camus, le guérillero de la liberté. Merci à toute l'équipe de l'Heure Bleue. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique. Merci à Maëlane Loaec, Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer. Merci à Ihab Radouane qui a composé la musique. Et merci évidemment à Lilian Alloum qui a réalisé chaque soir cette émission. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Nous allons, comme chaque soir, nous quitter en musique. Non sans vous donner rendez-vous après le prochain journal de la rédaction avec l'ami évidemment Mishka pour son Very Good Trip. Ça sera Stéphane Echer pour nous quitter ce soir.
T'as de l'eau dans les veines, t'as des pensées trop saines, d'être un vieil homme maladroit, que la solitude faudroie, que tous mes amis me lâchent. Que chaque pièce soit à sa place, que nos jours nous soient comptés, que nos fêtes soient annulées, de ne plus trouver ta trace, de maudire le temps qui passe, de ne plus savoir ton nom, de n'avoir plus d'horizon. Je n'attendrai, n'attendrai que la mémoire te revienne, que tu ne sois plus la mienne, qu'on soit dans l'obscurité, que nos forces nous aient quittés, que la justice intervienne, qu'on soit démis de nos chaînes, que le ciel vire au lilas et que tu te lasses de moi. Je n'attendrai, n'attendrai. Que le ciel vire au